Aujourd'hui en lecture. Bouillon de lecture, votre émission mensuelle, mais doit-on dire mensuelle puisque cet été nous en faisons plusieurs.
Elle devient hebdomadaire.
Elle est quasiment hebdomadaire. Donc votre émission hebdomadaire pour vous faire découvrir un livre, vous le faire aimer et vous donner envie de le lire à votre tour. Et ce, confortablement installé sur la plage en écoutant la lecture d'extraits lus par Hervé ou Catherine. Bonjour tous les deux.
Pourquoi...
Bonjour.
Bonjour, mais pourquoi la plage? On peut être allongé dans l'herbe au bord d'une rivière, au milieu des fleurs, dans la montagne.
Pour changer du canapé habituel. Et donc aujourd'hui, c'est Hervé qui lit.
Oui, c'est moi qui viens.
Voilà. Et quel roman nous as-tu choisi, Hervé?
Alors, j'ai choisi, puisque cet été, on l'a dit la semaine dernière déjà, donc nous allons lire des nouvelles. Puisque la semaine dernière, Catherine avait lu une nouvelle de Romain Gary qui était passionnante. Et moi, pour cette semaine, j'ai choisi donc un recueil de Anna Gavalda qui s'appelle « Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part ». Et dans ce recueil, je vais continuer tout de suite. Eh bien, la première nouvelle que je vais vous lire s'appelle « Petite pratique germanopratine ». Germanopratine, ça veut dire tout simplement qui se passe à...
À Saint-Germain-des-Prés.
Saint-Germain-des-Prés.
Saint-Germain-des-Prés. Je sais ce que vous allez me dire. Mon Dieu, mais c'est d'un commun, ma chérie. Sagan l'a fait bien avant toi et tellement mieux. Je sais. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis pas sûr que tout cela me serait arrivé sur le boulevard de Clichy. C'est comme ça, c'est la vie. Mais gardez vos réflexions pour vous et écoutez-moi car mon petit doigt me dit que cette histoire va vous amuser. Vous adorez les petites bluettes? Quand on vous titille le cœur avec ces soirées prometteuses, ces hommes qui vous font croire qu'ils sont célibataires et un petit peu malheureux? Je sais que vous adorez ça, c'est normal. Vous ne pouvez même pas lire un livre des romans harlequins à Table et Chélip ou aux Deux Magots. Évidemment que non, vous ne pouvez pas. Donc, ce matin, j'ai croisé un homme sur le boulevard Saint-Germain. Je remontais le boulevard et lui le descendait. Nous étions du côté père, le plus élégant. Je l'ai vu arriver de loin. Je ne sais pas, sa démarche peut-être... un peu nonchalante, ou les pans de son manteau qui prenaient de l'aisance devant lui. Bref, j'étais à 20 mètres de lui et je savais déjà que je ne le raterais pas. Et ça n'a pas loupé. Arrivé à ma hauteur, je le vois me regarder. Je lui décroche un sourire mutin, genre flèche de Cupidon, mais en plus réservé. Il me sourit aussi. En passant mon chemin, je continue de sourire. Je pense à la passante de Baudelaire. Je marche moins vite car j'essaie de me souvenir. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse. Après, je ne sais plus, une femme passa d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Un gilet noble, bref. Oh, à chaque fois, ça m'achève. Et pendant ce temps-là, divine candeur, je sens le regard de mon saint Sébastien. Toujours dans mon dos, ça me chauffe délicieusement les omoplates, mais plutôt que de crever que de me retourner, ça gâcherait le poème. J'étais arrêté au bord du trottoir à guetter le flot des voitures pour traverser à la hauteur de la rue des Saints-Pères. Précision, une Parisienne qui se respecte sur le boulevard Saint-Germain ne traverse jamais sur les lignes blanches quand le feu est rouge. Une Parisienne qui se respecte guette le flot des voitures et s'élance, tout en sachant évidemment que c'est prendre des risques. Mourir pour la vitrine de chez Paul K, c'est délicieux, non? Je m'élance enfin quand une voix me retient. Je ne vais pas vous dire une voix chaude et virile pour vous faire plaisir. Non, c'était pas le cas. Juste une voix. Pardon. Je me retourne. Oh, mais qui est là? Ma jolie proie de tout à l'heure. Autant vous le dire tout de suite, à partir de ce moment-là, pour Baudelaire, c'était foutu. Je me demandais si vous accepteriez de dîner avec moi ce soir. Dans ma tête, je pense, comme c'est romantique. Mais je réponds, c'est un petit peu rapide, non ? Le voilà qui me répond du tac au tac, et je vous promets que c'est vrai, je vous l'accorde, c'est rapide, mais en vous regardant vous éloigner, je me suis dit, c'est trop bête. Voilà une femme que je croise dans la rue, je lui souris, elle me sourit, nous nous frôlons et nous allons nous perdre. C'est trop bête, non vraiment. C'est même absurde. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous paraît complètement idiot ce que je vous dis là ? Non, non, pas du tout. Je commençais à me sentir un petit peu mal, moi. Alors, qu'en dites-vous ? Ici, là, ce soir ? Tout à l'heure ? À cet endroit exactement ? On se ressaisit, ma fille. Si tu dois dîner avec tous les hommes auxquels tu souris, tu n'es pas sortie de l'auberge. Donnez-moi une seule raison d'accepter votre invitation. Une seule raison, mon Dieu, que c'est difficile, une seule. Je le regarde amusé. Et puis, sans prévenir, il me prend la main. Je crois que j'ai trouvé une raison à peu près convenable. Il passe ma main sur sa joue parasée. Une seule raison, la voilà. Dites oui que j'ai l'occasion de me raser. Sincèrement, je crois que je suis beaucoup mieux quand je suis rasé. Et il me prend mon bras. Oui, dis-je. À la bonne heure. Traversons ensemble, je vous en prie. Je ne voudrais pas vous perdre maintenant. Cette fois, c'est moi qui le regarde partir dans l'autre sens. Il doit se frotter les joues comme un gars qui aurait conclu une bonne affaire. Je suis sûr qu'il est drôlement content de lui. Et il a raison. Fin d'après-midi, un peu nerveuse, il faut l'avouer. La roseuse arrosée ne sait pas comment s'habiller. Le ciré s'impose. Un peu nerveuse comme une débutante qui sait que son brushing est raté. Un peu nerveuse comme au seuil d'une histoire d'amour. Je travaille, je réponds au téléphone, j'envoie des fax, je termine une maquette pour l'iconographie. Oui, attendez, une fille un peu mignonne qui se promène à Saint-Germain-des-Prés travaille forcément dans l'édition. Les dernières phalanges de mes doigts sont glacées et je me fais répéter tout ce qu'on me dit. Respire, ma fille, respire. Entre chien et loup, le boulevard s'est apaisé et les voitures sont en veilleuse. On rentre les tables des cafés, les gens s'attendent sur le parvis de l'église, d'autres font la queue du boulevard pour voir le dernier Woody Allen. Je ne peux pas décemment arriver la première, non. Et même j'arriverai un petit peu en retard, me faire un tout petit peu désirer, ce serait mieux. Je vais donc prendre un petit remontant pour me remettre du sang dans les doigts. Je pousse la porte d'un troquet et tout de suite, c'est l'odeur de la bière mélangée à celle du tabac froid, le ding-ding du flipper, la patronne hiératique avec ses cheveux colorés et son chemisier en nylon qui laisse voir son soutien-gorge à grosse armature, la nocturne de Vincennes en bruit de fond, quelques maçons dans leurs cottes tachées qui repoussent encore un peu lors de la solitude ou de la bobonne, et des vieux habitués aux doigts jaunis qui emmerdent tout le monde avec leur loyer du 45. Bref, le bonheur. Ceux du zinc se retournent de temps en temps et bouffent entre eux comme des collégiens. Mes jambes sont dans l'allée et elles sont très longues. L'allée est assez étroite et ma jupe est très courte. Je vois leur dos voûté se secouer par saccades. Je fume une cigarette en envoyant la fumée très loin devant moi. J'ai les yeux dans le vague. Je sais maintenant que c'est Beautiful Day, côté disque contraint, qui l'a emporté dans la dernière ligne droite. Je me rappelle que j'ai Kennedy et moi dans mon sac et je me demande si je ne ferais pas mieux de rester là. Un petit salé aux lentilles et un demi-pichet de vin rosé, qu'est-ce que je serais bien. Mais je me ressaisis. Vous êtes là, derrière mon épaule, à espérer l'amour. Avec moi, je ne vais pas vous laisser en rade avec la personne du Chiquito. Ce serait un petit peu rapide. Je sors de là, les joues roses et le froid me fouette les jambes. Il est là, à l'angle de la rue des Saints-Pères. Il m'attend, il me voit, il vient vers moi. J'ai eu peur. J'ai cru que vous ne viendriez pas. J'ai vu mon reflet dans une vitrine et j'ai admiré mes joues toutes lisses. Et j'ai eu peur. Je suis désolé, j'attendais le résultat de la nocturne de Vincennes et j'ai laissé passer l'heure. Qui a gagné ? Vous jouez ? Non, c'est Beautiful Day qui a gagné. Évidemment, j'aurais dû m'en douter, sourit-il en me prenant le bras. Nous avons marché silencieusement jusqu'à la rue Saint-Jacques. De temps en temps, il me jetait un regard à la dérobée, examinait mon profil, mais je sais qu'à ce moment-là, il se demandait plutôt si je portais un collant ou des bas. Patience, mon bonhomme, patience. Je vais vous emmener dans un endroit que j'aime bien. Je vois le genre avec des garçons détendus mais obséquieux qui lui sourient d'un air attendu. « Bonsoir, monsieur. La petite table du fond, comme d'habitude, monsieur. Petite courbette. » Bref, vous me laissez vos vêtements ? Très bien. Il les déniche dans la rue ? Patate. Mais pas du tout. Il m'a laissé passer devant en tenant la porte d'un petit bistrot à vin et un serveur désabusé nous a juste demandé si nous fumions. C'est tout. Il a accroché nos affaires au porte-manteau et à sa demi-seconde de désœuvrement, quand il a aperçu à la douceur de mon décolleté, j'ai su qu'il ne regrettait pas la petite entaille qu'il s'était faite sous le menton en se rasant tout à l'heure alors que ses mains le trahissaient. Nous avons bu un vin extraordinaire dans des gros verres ballons. Nous avons mangé des choses assez délicates, précisément conçues pour ne pas gâter l'arôme de nos nectars. Une bouteille de Côte de Nuit, Gevrey-Chambertin 1986. Petit Jésus en culotte de velours. Je vois Dominique qui hoche la tête. L'homme qui est assis en face de moi boit en plissant les yeux. Je le connais mieux maintenant. Il porte un col roulé en cachemire, un vieux col roulé. Il a des pièces au coude et un petit accroc près du poignet droit. Le cadeau de ses 20 ans peut être sa maman. Troublée par Samou, un peu déçue, qui lui dit « Tu ne le regretteras pas, va !» Et elle l'embrasse en lui passant la main dans le dos. Une veste très discrète qui n'a pas l'air de rien d'autre qu'une veste en tweed, mais comme c'est moi et mes yeux de lynx, je sais bien que c'est une veste coupée sur mesure. Chez Old England, les étiquettes sont plus larges quand la marchandise sort directement des ateliers des Capucines et j'ai vu l'étiquette quand il s'est penché pour ramasser sa serviette. Sa serviette qu'il avait laissée tomber exprès pour avoir le cœur net avec cette histoire de bas. J'imagine. Il me parle de beaucoup de choses, mais jamais de lui. Il a toujours un peu de mal à retrouver le fil de son histoire. Quand je laisse traîner ma main sur mon cou, il me dit « Et vous ?» Et je ne lui parle jamais de moi non plus. En attendant le dessert, mon pied touche sa cheville. Il pose sa main sur la mienne et la retire soudain parce que les sorbets arrivent. Il dit quelque chose, mais ses mots ne font pas plus de bruit et je n'entends rien. Nous sommes émus. C'est horrible. Son téléphone portable vient de sonner. Comme un seul homme, tous les regards du restaurant sont braqués sur lui, qu'il l'éteint prestement. Il vient certainement de gâcher beaucoup de son train bon vin. Des gorgées mal passées dans les gosiers irrités, des gens se sont étranglés, des doigts se sont crispés sur les manches des couteaux et sur les plis des serviettes amidonnées. Ces maudits engins, il en faut toujours un n'importe où, n'importe quand qui sonne. Un goujat. Il est confus. Il a un peu chaud tout à coup dans le cachemire de sa maman. Il fait un signe de tête aux uns et aux autres comme pour exprimer son désarroi. Il me regarde et ses épaules se sont légèrement affaissées. Je suis désolé. Il me sourit encore, mais c'est moins belliqueux, on dirait. Je lui dis, ce n'est pas grave, on n'est pas au cinéma. Un jour, je tuerai quelqu'un, un homme ou une femme, qui aura répondu au téléphone au cinéma pendant la séance. Et quand vous lirez ce fait divers, vous saurez que c'est moi. Je le saurai. Vous lisez les faits divers ? Non, mais je vais m'y mettre puisque j'ai une chance de vous y trouver. Les sorbets furent, comment dire, délicieux. Revigoré, mon prince charmant est venu s'asseoir près de moi au moment du café. Si près que c'est maintenant une certitude, je porte des bas. Il a senti la petite agrafe en haut de mes cuisses. Et je sais qu'à cet instant-là, il ne sait plus où il habite. Il soulève mes cheveux et il embrasse ma nuque dans le petit creux derrière. Il me chuchote à l'oreille qu'il adore le boulevard Saint-Germain et qu'il adore les Bourgognes et les sorbets au cassis. J'embrasse sa petite entaille. Depuis le temps que j'attendais ce moment, je m'applique. Les cafés, l'addition, le pourboire, nos manteaux, tout cela n'est plus que détails qui nous empêtrent, nos cages thoraciques s'affolent. Il me tend mon manteau et là, j'admire le travail de l'artiste. Chapeau bas, c'est très discret, c'est à peine visible, c'est vraiment bien calculé, c'est drôlement bien exécuté. En le déposant sur mes épaules nues, offerte et douce comme de la soie, il trouve la demi-seconde nécessaire et l'inclinaison parfaite vers la poche intérieure de sa veste pour jeter un coup d'œil à la messagerie de son portable. Je retrouve tous mes esprits d'un coup. Le traître, l'ingrat, qu'as-tu donc fait là, malheureux ? De quoi te préoccupait-on donc quand mes épaules étaient si rondes, si tièdes et ta main si proche ? Quelle affaire t'a semblé plus importante que mes seins qui s'offraient à ta vue ? Par quoi te laisses-tu importuner alors que j'attendais ton souffle sur mon dos ? Ne pouvais-tu donc pas tripoter ton maudit bidule après, mais seulement après m'avoir fait l'amour ? Je boutonne mon manteau jusqu'en haut. Dans la rue, j'ai froid, je suis fatigué, j'ai mal au cœur. Je lui demande de m'accompagner jusqu'à la première station de taxi. Il est affolé. Appelle SOS, mon gars, t'as ce qu'il faut. Mais non, il reste stoïque, comme si de rien n'était, genre je raccompagne une bonne copine à son taxi, je frotte ses manches pour la réchauffer et je devise sur la nuit à Paris. La classe, presque, jusqu'au bout, ça, je le reconnais. Avant que je ne monte dans un taxi Mercedes noire, immatriculé dans le Var-de-Marne, il me dit « Mais on va se revoir, n'est-ce pas ? Je ne sais pas où vous habitez. Laissez-moi quelque chose, au moins une adresse, un numéro de téléphone. » Il arrache un bout de papier dans son agenda et griffonne des chiffres. « Tenez, le premier numéro, c'est chez moi. Le deuxième, c'est mon portable. Vous pouvez me joindre n'importe quand. » Ça. J'avais compris. Surtout, n'hésitez pas à n'importe quand, d'accord ? Je vous attends. Je demande au chauffeur de me déposer en haut du boulevard. J'ai besoin de marcher. Je donne des coups de pied dans la boîte à gants, dans les boîtes de conserve imaginaires. Je hais les téléphones portables, je hais Sagan, je hais Baudelaire et tous ces charlatans. Je hais mon orgueil.
You don't know, but that's okay. You might find me anyway. Don't you know that I belong arm in arm with you, baby? In a town that's cold and gray, we will have a sunny day. Don't you know that I corner there's a chance, people searching glance to glance, moving about real fast like insects and fish when they're scared. And they sing the same old song, though it's been so very long. They sing raindrops falling on my head, but that doesn't mean that I am dead. But that's okay. okay. You might find me anyway. Don't you know that I belong arm in arm with you, baby? In a town that's golden gray, we will have a sunny day. Don't you know that I belong arm in arm with you, baby?
Eh bien, cette nouvelle était effectivement plutôt sympathique. Très germanopratine, effectivement.
Très germanopratine. Mais ça se passait en hiver, vous avez remarqué. Alors là, par contre,
effectivement,
les manteaux, les machins. Oui, oui. Ouais.
Bon. Avec des gens raffinés.
Je n'aurais pas dit ça, moi, mais bon.
La deuxième est tout aussi, comment dire, réjouissante, tout aussi...
Eh bien, pas du tout.
Germanopratine.
Elle n'est pas du tout germanopratine, non, c'est même plutôt le contraire. Cette seconde nouvelle s'appelle « Le fait du jour », toujours publié dans le même recueil.
Hein.
Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Mais alors, elle n'est pas du tout gaie comme la première.
Mm-hmm, le fait du jour. Oui, ouais, je connais la nouvelle. Bah, remarque, je connais tout le recueil, n'est-ce pas, Hervé?
Ah oui, bien sûr, oui, oui, on peut le dire. C'est Catherine qui m'a proposé le recueil.
Voilà. Alors, mais c'est pas le même style.
Vous pourriez me demander, mais pourquoi tu as choisi cela, surtout en été?
C'est ce que j'allais dire, effectivement. Dirais.
On l'a déjà un petit peu dit la semaine dernière avec Catherine, quand même. Comment on choisit une nouvelle? Il faut. Là, la semaine dernière, on a parlé sur le fait d'écrire des nouvelles, qui est quand même un art en soi.
Ah,
et là, il
y
a aussi le fait de choisir des nouvelles pour passer à la radio. Et. Il faut qu'elle ait la bonne longueur, c'est-à-dire le temps voulu. Et puis, les scènes, elles doivent être le plus réaliste possible, avec une capacité à être visualisées. Mmh. Et cette seconde nouvelle, vous verrez, elle est tout à fait comme ça. Et enfin, elle part d'une idée simple. Et c'est ce que tu disais, Catherine, l'année dernière. Il faut unité de temps, unité d'action. Et là, une idée de simple avec une chute. Il faut toujours une chute. Jingle. Je ferais mieux d'aller me coucher, mais je ne peux pas. Mes mains tremblent. Je crois que je devrais écrire une sorte de rapport. J'ai l'habitude, j'en rédige un par semaine, le vendredi après-midi, pour Guillemin, mon responsable. Là, ce sera pour moi. Je me dis, si tu racontes tout en détail, si tu t'appliques bien, à la fin, quand tu le reliras, tu pourras croire pendant 2 secondes que le couillon de l'histoire, c'est un autre gars que toi. Et là, tu pourras peut-être te juger objectivement, peut-être. Donc, je suis là, je suis assis devant mon petit portable qui me sert d'habitude pour le boulot. J'entends le bruit de la machine à laver, la vaisselle, en bas. Ma femme et mes gosses sont au lit depuis longtemps. Mes gosses, je sais qu'ils dorment, ma femme sûrement pas, elle me guette. Elle essaye de savoir, je pense qu'elle a peur parce qu'elle sait déjà qu'elle m'a perdue. Les femmes sentent ces choses-là. Mais je ne peux pas venir contre elle et m'endormir. Elle le sait bien. Il faut que j'écrive tout ça, maintenant, pour ces 2 secondes qui seront peut-être tellement importantes dans ma vie, si j'y arrive. Je commence au début. J'ai été engagé chez Paul Prideaux le 1er septembre 1995. Alors, j'étais chez un concurrent, mais il y avait trop de petits détails irritants qui s'accumulaient, comme par exemple les notes de frais payées avec 6 mois de retard. Et j'ai tout plaqué sur un coup de tête. Je suis resté presque 1 an au chômage. Tout le monde pensait que j'allais devenir marteau à tourner en rond chez moi en attendant un coup de téléphone de la boîte d'intérim où je m'étais inscrit. Pourtant, c'est une époque qui restera toujours comme un bon souvenir. J'ai pu enfin finir la maison. Tout ce que Florence me réclamait depuis si longtemps, j'ai accroché toutes les tringles à rideaux, j'ai arrangé une douche dans le cagibi du fond. J'ai loué un motoculteur et j'ai retourné tout le jardin avant d'y remettre un beau gazon tout neuf. Le soir, j'allais chercher Lucas chez la nourrice, puis on passait prendre sa grande sœur à la sortie de l'école. Je leur préparais des gros goûters avec du chocolat chaud, pas du Nesquik, hein, du vrai cacao, touillé qui leur dessinait les moustaches magnifiques. Après, dans la salle de bain, on se regardait dans la glace avant de les lécher. Au mois de juin, quand j'ai réalisé que le petit n'irait plus chez Madame Ledoux parce qu'il avait l'âge de la maternelle, j'ai recommencé à chercher du boulot sérieusement et en août, j'en ai trouvé chez Paul Prideau. Je suis agent commercial sur tout le Grand Ouest de la France. C'est une grosse entreprise de cochonnaille, comme une charcuterie si vous voulez, mais à l'échelle industrielle. Le coup de génie du père Prideau, c'est son jambon au torchon remballé dans un vrai torchon à carreaux rouges et blancs. Évidemment, c'est un jambon d'usine fabriqué avec des cochons d'usine, sans parler du, du fameux torchon de paysan qui est fabriqué en Chine. Mais n'empêche que c'est avec ça qu'il est connu. Et maintenant, toutes les études de marché le prouvent, si vous demandez à une ménagère derrière son caddie ce que Paul Prideau évoque pour elle, elle vous répondra « jambon au torchon ». Et si vous insistez, vous saurez que le jambon au torchon, il est forcément meilleur que les autres à cause de son petit goût authentique. Chapeau l'artiste. On fait un chiffre d'affaires annuel net de 35 millions. Je passe plus de la moitié de la semaine derrière le volant de ma voiture de fonction, une 306 noire avec une tête de cochon rigolard décalquée sur les côtés. Les gens n'ont aucune idée de la vie que mènent les gars qui font la route, les routiers et tous les représentants. C'est comme s'il y avait deux mondes sur l'autoroute, ceux qui se promènent et nous, les professionnels. C'est un ensemble de choses. D'abord, il y a la relation avec son véhicule. Depuis la Clio jusqu'aux énormes semi-remorques allemands, quand on monte dedans, c'est chez nous. C'est notre odeur, c'est notre foutoir, c'est notre siège qui a pris la forme de notre cul. Et il ne s'agirait pas trop de nous titiller avec ça, sans parler de la Sibie, qui est un royaume immense et mystérieux avec des codes que peu de gens comprennent. Je ne m'en sers pas beaucoup, je la mets en sourdine de temps en temps quand ça sent le roussi, mais sans plus. Il y a aussi tout ce qui concerne la bouffe, les auberges du Cheval Blanc, les restoroutes, les promos de l'Arche, il y a les plats du jour, les pichets, les nappes en papier, tous ces visages qu'on croise et qu'on ne reverra jamais. Et les culs des serveuses qui sont répertoriés, cotés et mis à jour mieux que dans le guide Michelin. Il s'appelle le guide Michelin. Il y a la fatigue, les itinéraires, la solitude, les pensées, toujours les mêmes et qui tournent toujours dans le vide. La bedaine qui vient doucement et les putes aussi. Tout un univers qui crée une barrière infranchissable entre ceux qui sont de la route et ceux qui n'y sont pas. Grosso modo, mon travail consiste à faire le tour du propriétaire. Je suis en contact avec les responsables alimentaires des moyennes et grandes surfaces. Ensemble, on définit des stratégies de lancement, des perspectives de vente, des réunions d'information sur nos produits. Pour moi, c'est un peu comme si je me baladais avec une belle fille sous le bras en vantant ses charmes et tous ses mérites, comme si je voulais lui trouver un beau parti. Mais c'est pas tout de la caser. Encore faut-il qu'on s'occupe bien d'elle. Et quand j'en ai l'occasion, je teste les vendeuses pour savoir si elles mettent la marchandise en avant. Si elles n'essayent pas de vendre du générique, si le torchon est bien déplié comme à la télé. Si des andouillettes baignent dans leur gelée, si les pâtés sont dans des vraies terrines, façon à l'ancienne, si les saucissons sont pendus comme s'ils étaient en train de sécher, et si. Personne ne remarque tous ces petits détails, et pourtant c'est ce qui fait la différence, Paul Prideau. Je sais que je parle trop de mon boulot, et que ça n'a rien à voir avec ce que je dois écrire. En l'occurrence, c'est du cochon, mais j'aurais aussi pu vendre du rouge à lèvres ou des lacets de chaussures. Ce que j'aime, c'est les contacts, la discussion et voir du pays. Surtout ne pas être enfermé dans un bureau avec un chef sur le dos toute la journée. Rien que d'en parler, ça m'angoisse. Le lundi 29 septembre 1997, Je me suis levé à 6h moins le quart. J'ai ramassé mes affaires sans bruit pour éviter que ma femme ne grogne. Ensuite, j'ai eu à peine le temps de prendre ma douche parce que je savais que la voiture était à sec et que je voulais en profiter pour vérifier la pression des pneus. J'ai bu mon café à la station Shell, c'est un truc que je déteste. L'odeur du diesel qui se mélange avec celle du café sucré me donne toujours un petit peu l'envie de vomir. Mon premier rendez-vous était à 8h30 à Pont-Audemer. J'ai aidé les magasiniers de Carrefour à monter un nouveau présentoir pour nos places sous vide. C'est une nouveauté qu'on vient de sortir en association avec un grand chef. Faut voir les marges qu'il se fait, le grand chef. Le second rendez-vous était prévu à 10h dans la zone industrielle de Bourg-Achard. J'étais un petit peu à la bourre, surtout qu'il y avait du brouillard sur l'autoroute. J'ai éteint la radio parce que j'avais besoin de réfléchir. Je me faisais du souci pour cet entretien. Je savais qu'on était sur la sellette avec un concurrent important et pour moi c'était un gros challenge. D'ailleurs, j'ai même failli rater la sortie. À 13h, j'ai reçu un coup de téléphone paniqué de ma femme. « Jean-Pierre, c'est toi ?»« Ben oui, qui tu veux que ce soit ?»« Mon Dieu, ça va ? Pourquoi tu me demandes ça ?»« Ben, à cause de l'accident, évidemment. Ça fait 2 heures que j'essaye de t'appeler sur ton portable, mais ils disent que toutes les lignes sont saturées. Ça fait 2 heures que je suis là à stresser comme une malade. J'ai appelé ton bureau au moins 10 fois. Mais merde, tu aurais pu m'appeler quand même. Tu fais chier à la fin. » Mais attends, de quoi tu me parles là ? De quoi tu me parles ? Mais de l'accident qui a eu lieu sur la 13 ce matin. Tu ne devais pas prendre la 13 ce matin ? Mais quel accident ! Je rêve ! C'est toi qui écoutes France Info toute la journée ! Tout le monde ne parle que de ça, même à la télé, de l'accident horrible qui a eu lieu ce matin près de Rouen. Bon, allez, je te laisse, j'ai plein de boulot. J'ai rien fait depuis ce matin, je me voyais déjà veuve. Je me voyais déjà en train de jeter une poignée de terre dans le trou. Ta mère m'a appelé, ma mère m'a appelé. Tu parles d'une matinée ? Eh ben, non, désolé, c'est pas pour cette fois. Faudra attendre encore un petit peu pour se débarrasser de moi. Espèce d'idiot. Hé, Flo, quoi ? Je t'aime. Ah, tu ne me le dis jamais. Et là, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Allez, à ce soir. Rappelle ta mère, sinon c'est elle qui va y passer, hein ? À 19h, j'ai regardé les infos régionales. L'horreur. 8 morts. 60 blessés. Des voitures broyées comme des canettes. Combien ? 50 ? 100 ? Des poids lourds couchés et complètement brûlés. Des dizaines et des dizaines de camions du SAMU. Un gendarme qui parle d'imprudence, de vitesse excessive, du brouillard annoncé la veille et de certains corps qui n'ont pas encore pu être identifiés. Des gens hagards, silencieux, en larmes. À 20h, j'ai écouté les titres du journal de TF1. 9 morts cette fois. Florence crie depuis la cuisine. « Allez, arrête ça ! Arrête, viens me voir !» On a trinqué dans la cuisine, mais c'était pour lui faire plaisir, car le cœur n'y était pas. C'est maintenant que j'avais peur. Je n'ai rien pu manger et j'étais sonné comme un boxeur trop lent. Comme je n'arrivais pas à dormir, ma femme m'a fait l'amour tout doucement. À minuit, j'étais de nouveau dans le salon. J'ai allumé la télé sans le son et j'ai cherché une cigarette. À minuit et demi, j'ai remonté un tout petit peu le volume pour le dernier journal. Je n'arrivais pas à détacher mon regard de l'amas de tôle qui s'éparpillait dans les deux sens sur l'autoroute. Quelle connerie ! Je me disais, les gens sont vraiment trop cons. Et puis, un routier est apparu sur l'écran. Il portait un t-shirt marqué « Le Castellet ». Je n'oublierai jamais son visage. Ce soir-là, dans mon salon, ce gars a dit « D'accord, il y avait du brouillard, et c'est sûr, les gens roulaient trop vite, mais tout ce merdier, ça serait jamais arrivé si l'autre connard n'avait pas reculé pour rattraper la sortie de Bourg-Achard. De la cabine, j'ai tout vu, forcément. Il y en a deux qui ont ralenti à côté de moi, et puis après, j'ai entendu les autres s'encastrer comme dans du beurre. » Craillez, croyez-moi si vous pouvez, mais je voyais rien dans les rétros, rien du blanc. J'espère que ça t'empêche pas de dormir, mon salaud. » C'est ce qu'il m'a dit à moi, Jean-Pierre, à poil dans mon salon, c'était hier. Aujourd'hui, j'ai acheté tous les journaux. À la page 3 du Figaro du mardi 30 septembre, en titre, une fausse manœuvre suspectée. Et l'article, la fausse manœuvre d'un conducteur qui aurait fait marche arrière à l'échangeur de Bourrachard serait à l'origine de l'enchaînement qui a causé la mort de 9 personnes hier matin dans une série de carambolages sur l'autoroute A13. Cette erreur aurait provoqué le premier carambolage dans le sens province-Paris et l'incendie du camion-citerne qui s'est aussitôt suivi, les flammes auraient alors attiré, etc., etc. Et à la page 3 du Parisien, l'effarante hypothèse d'une fausse manœuvre. L'imprudence, voire l'inconscience d'un automobiliste pourrait être à l'origine du drame qui s'est traduit par cet indescriptible amas de tôles broyées dont 9 personnes au moins ont été retirées hier matin sur l'autoroute A13. Les gendarmes en ont en effet recueilli un témoignage effarant selon lequel une voiture a fait marche arrière pour rattraper la sortie de Bourrachard à une 20aine de kilomètres de Rouen. C'est en voulant éviter cette voiture que les... etc. Et comme si ça ne suffisait pas, en voulant traverser l'autoroute pour porter secours aux blessés, 2 autres personnes sont tuées, fauchées par une voiture. En moins de 2 minutes, 100aine d'autos, 3 poids lourds. Libération, même jour. Même pas 20 mètres, à peine juste un peu mordi sur les bandes blanches, ça m'a pris seulement quelques secondes. J'avais déjà oublié, mon Dieu. Je ne pleure pas. Florence est venue me chercher dans le salon à 5h du matin. Je lui ai tout raconté, évidemment. Pendant de longues minutes, elle est restée assise sans bouger avec ses mains sur son visage. Elle regardait vers la droite, puis vers la gauche, comme si elle cherchait de l'air, et puis elle m'a dit... « Écoute-moi bien, tu ne dis rien. Tu sais que sinon ils vont t'inculper pour homicide involontaire et tu iras en prison. »« Oui. »« Et alors, qu'est-ce que ça changera ? D'avis supplémentaire de foutu, qu'est-ce que ça changera ?» Elle pleurait. « De toute façon, moi, ça y est, elle est foutue, ma vie. » Elle criait. « La tienne peut-être, mais pas celle des enfants. Alors tu ne dis rien. » Moi, je n'arrivais pas à crier. Parlons-en des enfants, regarde-le celui-là, regarde-le bien. Et je lui ai tendu le journal à la page où on voyait un petit garçon en pleurs sur l'autoroute A13. Un petit garçon qui s'éloigne d'une voiture méconnaissable. Une photo dans le journal, dans la rubrique « Le fait du jour ». Il a l'âge de Camille. Mais bon sang, arrête avec ça. C'est ce que gueule ma femme en m'empoignant par le col. Arrête avec ça, merde. Tu te fais mal maintenant. Je vais te poser une question, une seule. À quoi ça sert qu'un gars comme toi aille en tôle, hein? Dis-moi, à quoi ça sert? Elle est consolée. Elle est partie effondrée. Je l'ai entendu qui s'enfermait dans la salle de bain. Ce matin, devant elle, j'ai hoché la tête, mais là, maintenant, ce soir, dans ma maison silencieuse, avec juste le lave-vaisselle en bruit de fond, je suis perdu. Je vais descendre, je vais boire un verre d'eau et je vais fumer une cigarette dans le jardin. Après, je vais remonter et je vais tout relire d'une traite pour voir si ça m'aide. Mais je n'y crois pas.
Young boy, a man or a pretty girl, she grooving on the dance floor, seems like a waiting for someone. When she look at me, my heart beats faster. She passed on me, looking fine and smile. The nerve, go over, say hello to her. She did not answer, just an old bottle of rum. When she looked at me, my heart beats faster.
smile. Mama told me that girl was tender, and my brother say she would make you destitute. But they don't. Like a gray, gray flirt, she did not pull away when I put my hands on her waist. When she looked at me, my heart is faster. She passed on me, looking bright and smiling. So long, my boys.
Eh bien, tu avais employé le mot tragique tout à l'heure, je crois.
Oui, hein? C'était plus que ça, hein, presque trash, on pourrait dire.
C'est vrai. Ça dit, ça fait un petit peu peur parce qu'on se dit que ça pourrait arriver à tout le monde. Enfin, tout le monde ne fait pas des marches arrière sur l'autoroute, mais
oui, un moment d'absence, une connerie, tu sais, ça arrive très vite.
Une imprudence en voiture peut arriver.
On s'aperçoit que statistiquement parlant, sur une vie entière, je l'ai vu plusieurs fois finalement. Ouais, ouais. Des gens qui reculaient parce qu'ils avaient raté une sortie. Ça peut arriver à tout le monde.
Pour ne pas inquiéter ceux qui sont en vacances et qui vont prendre l'autoroute, il y avait du brouillard, c'était l'hiver. Hein.
Oui, c'était l'hiver. Ah ouais. Oui, c'était l'hiver, comme la première nouvelle. C'était surtout pas en été, ça peut plus arriver de nos jours.
Voilà.
Et ça date un petit peu d'ailleurs.
Ça date un petit peu, on peut le remarquer à certaines expressions qui sont employées ou certains mots.
Il parle de la Sibylle, à un moment donné, c'est daté quand même.
Oui, exactement.
Et puis même ce côté, cette obsession du téléphone, maintenant c'est tellement intégré à nos mœurs, on ne sait pas si on aurait...
On remarque moins peut-être.
Oui.
Et puis il y a une usine qui a un chiffre d'affaires de 35 millions. Bon, c'était en francs.
Ouais,
c'était en francs et pas en euros. Et donc, le recueil...
C'est du XXe siècle.
Le recueil « Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part » de Anna Gavalda, répétons-le, a été publié aux éditions Le Dilettante en 1999.
Et c'est sa première publication.
Parce que,
voilà. Nous, on avait lu son premier roman à l'époque pour Le Robles, qui était après. Mais c'était sa première publication, oui.
Notre émission touche à sa fin. Merci pour ces nouvelles, Hervé.
Réjouissantes.
Ces nouvelles d'Anna Gavalda. Rappelle-moi le titre du recueil.
Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part.
C'est ça.
Il y a peut-être une dizaine de nouvelles dans ce recueil.
12.
Qui sont 12 exactement. Merci Catherine, j'avais pas à compter.
J'aime la précision.
D'accord. Et qui sont toutes réjouissantes, il faut le dire quand même, vraiment.
Non, alors
moi j'aurais pu choisir de lire les 12 nouvelles.
Je l'avais lu à l'époque ce livre-là et j'ai pas reconnu tout de suite la première nouvelle que tu as lue, celle du téléphone. C'est au moment où le téléphone sonne dans le
restaurant.
Dans le restaurant, je dis ah oui, ça y est, ça me revient. Eh bien, merci.
Et puis au mois prochain ou à la semaine prochaine.
On continue le mois prochain maintenant.
Bien sûr. Voilà. En tous les cas, le mois prochain, c'est septembre. Une nouvelle saison démarre et peut-être que notre émission continuera d'être le vendredi
après-midi, en début d'après-midi.
Il y a un moment de doute.
Ou pas.
Non, on peut le préciser, on n'est pas en direct. Hein. Mais en tous les cas, elle perdurera et des fois, elle sera en public.
En public.
Non,
voilà,
pas en direct,
pas forcément en direct,
en public.
Mais en public.
Voilà.
Il y a déjà deux dates qui sont prises.
Exactement.
Eh bien, au mois prochain. Au revoir Catherine.
Au revoir
Hervé. Et puis bonne fin de vacances.
Bonne vacances.
Eh bien, bonne fin de vacances à tous.